et Lormanodou qui accélère, Lormanodou qui termine, Lormanodou est champion du monde.
Pas ça Zinedine, oh non pas ça.
Regardez l'équipe de France qui fait la saga.
Attention,
saga Africa, ambiance de la
has the power to change the world. It has the power to unite people.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'émission Vivons Sport sur Cause Commune. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Vous retrouverez le podcast sur l'application Cause Commune et l'application Apple Podcast sur le site et les réseaux sociaux. Merci par avance pour vos remarques, vos annonces, vos questions sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte LinkedIn et sur mon compte Twitter X et sur le chat sur le canal Vivons Sport. Le thème de l'émission d'aujourd'hui est « Sport et histoire contemporaine ». En quoi le sport, les championnes et champions, peuvent-ils nous aider à transmettre et comprendre notre histoire ? En quoi des événements sportifs et le parcours d'athlètes ont-ils pu révéler des moments importants de notre histoire ? En quoi peuvent-ils aider le monde à avancer ? En quoi le sport peut-il aujourd'hui aider notre planète à tourner plus rond ? Ou pas. Pour répondre à ces questions et quelques autres, quatre invités avec nous en studio dans cette émission, ils vont nous présenter des œuvres et initiatives réalisées très récemment pour nous éclairer. Nous avons ainsi la chance de recevoir Richard Dacoury. Bonjour Richard.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, on va rappeler quelques lignes de ton palmarès. Il nous faudrait toute l'émission, donc... Ça sera long, mais je ne vais pas pouvoir tout dire. Tu as été un joueur emblématique du CSP Limoges, club mythique de basket, avec qui tu as remporté la Coupe d'Europe des clubs champions, la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, la Coupe Corach, 7 Coupes de France, 8 titres de champion de France, et tu as été 9e fois champion de France avec le PSG Basket Racing. Tout ça, c'est juste. Tu as cumulé 196 sélections en équipe de France, donc tu as été capitaine de 1986 à 1996. Et tu es aujourd'hui consultant corporate sport pour Coca-Cola, consultant basket pour France Télévisions et présentateur animateur de Smart Sport. Tout ça, c'est juste.
C'est juste, c'est parfait.
Nous sommes heureux d'accueillir aussi Pierre Friedenreich. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Tu es membre du comité directeur et président de la commission sport du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France. Tu es journaliste et cofondateur de Bismart.
C'est ça, j'ai un peu moins de sélection en équipe de France que Richard.
Un peu ?
Bon. Mais c'est un très bon basketteur.
On te garde quand même. Avec vous deux, nous allons revenir sur le voyage de la mémoire des sportifs, au camp d'Auschwitz-Birkenau, réalisé en janvier, voyage que le CRIF a organisé et dont Richard, tu as été le parrain. J'ai aussi le plaisir de recevoir Marie Lopez-Vivanco. Bonjour Marie.
Bonjour.
Tu es réalisatrice, auteure, photographe, réalisatrice notamment de films dans le sport. Tu as réalisé notamment Les Sportives, le parcours médiatique des combattantes, dont nous avions déjà parlé dans l'émission avec Patrick Chevalier. La traversée au sujet d'une kitesurfeuse victime de violences sexuelles qui veut traverser la Méditerranée en kitesurf et reverser les fonds perçus à la Fondation des Femmes. Et aujourd'hui, tu viens nous parler du film Histoire de Palestine que tu as tourné entre 2019 et 2022. Et donc, tu auras l'occasion de le présenter largement. Et tu es aussi auteur du livre Championne, histoire de française aux Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques, qui paraîtra le 7 mai aux éditions Ramsay. Enfin, je suis contente d'avoir avec nous Pascal Blanchard. Bonjour Pascal.
Bonjour. Bonjour.
Tu es historien, chercheur associé à l'UNIL à Lausanne, documentariste, essayiste, spécialiste du fait colonial, fondateur du groupe de recherche HAC qui travaille sur les représentations et imaginaires coloniaux. Tu es l'auteur d'une soixantaine de livres. Tu diriges actuellement le programme d'exposition pédagogique sur l'histoire des Jeux Olympiques, histoire, sport et citoyenneté, dont nous allons largement parler dans cette émission. Et tu seras l'un des commissaires de l'exposition de fin avril au Palais de la Porte Dorée, Olympisme, une histoire du monde. Et tu es l'auteur d'un magnifique catalogue qui sort à cette occasion aux éditions de La Martinière.
Tout à fait, c'est parfait.
Un grand merci également à Olivier Grieco pour la réalisation. Et nous allons alors partir du plus loin pour arriver au plus récent et parler dans un premier temps des expositions sur les différents Jeux Olympiques et Paralympiques, le voyage de la mémoire à Auschwitz-Birkenau et on finira par le film tourné en Cisjordanie à Gaza sur des sportifs. Du coup, on commence avec toi, Pascal. La dernière fois, tu étais venu nous présenter des expositions avec champions de France. Je ne sais plus, c'était des footballeurs. Il y en a une sur les Noirs et une
exactement,
sur
les... Exactement, tous les joueurs issus des Outre-mer ou de l'étranger en équipe de France de football.
Voilà, tu le dis beaucoup mieux que moi. Et donc, là, tu viens de nous présenter une nouvelle exposition qui parle de l'ensemble des Olympiades, de oui. l'ensemble de plusieurs champions emblématiques pour chaque Olympiade. Et aussi, sur la trentaine de panneaux, tu cites à chaque fois une valeur importante à mettre en avant. Alors, je te laisse en parler.
L'idée, c'était faire rentrer aujourd'hui les scolaires dans une histoire sur 130 ans. Quand on est historien, on sait que c'est compliqué. Par contre, quand vous prenez les Jeux Olympiques, il y a un avantage, c'est que c'est répétitif. Tous les 4 ans, il se passe quelque chose et c'est le plus grand événement au monde. Et donc, on est parti de cette idée extrêmement simple d'abord de faire découvrir l'histoire des Jeux Olympiques, chaque Olympiade, de choisir une championne ou un champion paralympique, des fois un binôme quand l'histoire le méritait, Carlos et Smith, c'est une telle évidence qu'on ne peut pas choisir, et de proposer une valeur pour emblématiser ce récit. Une valeur qui ne devient pas abstraite, mais c'est de prendre ce récit très personnel dans une Olympiade, pour arriver justement à partir de cette valeur et faire que les scolaires, mais comme le grand public, quand ils vont plonger dans ce récit-là, vont retenir à la fois ce qui s'est passé, du fair play, de l'engagement, de l'égalité, de la diversité, d'avoir un récit de vie qui est exceptionnel pour ce qu'il a donné, soit en tant que sportif d'ailleurs, soit en tant qu'événement politique, sociologique ou de la lutte par exemple contre les discriminations, et en même temps d'avoir aussi l'occasion de ramener une Olympiade dans son histoire. Les années 50, c'est pas les années 30 avec la montée des extrêmes, la guerre froide, c'est autre chose que les jeux très contemporains avec d'un seul coup, on a l'impression une marchandisation du sport, et les tout premiers jeux, bah, c'est une vraie découverte parce qu'on découvre qu'avant que les Jeux Olympiques soient ce qu'ils sont, il a fallu sacrément se battre pour convaincre des gens de venir dans les stades, de voir des sportifs, et même de rentrer dans quelque chose qui est devenu populaire mais qu'il n'est pas tant que ça au début. Et donc là, vous avez 130 ans d'histoire pour raconter ça. C'est merveilleux et ça permet de pointer à chaque fois et de montrer que dans l'histoire du sport, en fin de compte, tout se résume. L'histoire du monde, elle est là, elle est sous nos yeux et c'est un peu le cheminement qu'on a choisi. Et cette expo tourne maintenant depuis un nombre d'exemplaires incroyables dans les écoles de France et dans les mairies et dans les lieux. Elle a commencé en 2021. Il y a déjà eu 6 millions de visiteurs physiques qui sont venus devant les panneaux, qui ont travaillé, les gamins qui ont travaillé la pédagogie et leur parcours. C'est merveilleux. Si vous voulez même faire des mathématiques avec l'expo, si vous travaillez sur l'histoire des femmes dans les Jeux Olympiques, vous commencez à zéro, c'est facile, pour arriver enfin en 2024 à 50% de femmes. Vous voyez, vous pouvez même faire des maths avec les élèves.
Oui, avec les femmes, on peut faire... on peut faire du sport aussi.
Exactement.
Il y a plein de choses. Alors justement, j'ai dit les Jeux Olympiques et Paralympiques. Oui. Il y a plein de premières que tu vas balayer. Les Jeux n'étaient pas... Jeux paralympiques dès le départ.
Ah non, les Jeux paralympiques. Alors, il y a eu, ce qu'on sait peu, des sportifs qui avaient des problématiques corporelles qui ont participé aux Jeux. Pourquoi ? Parce qu'au départ, il n'y avait pas la possibilité d'avoir des Jeux qui étaient réservés ou qui pouvaient permettre, par exemple, à des non-voyants ou à des personnes à qui il manquait une jambe ou un bras de pouvoir participer aux Jeux. Donc, ils n'avaient pas le choix. Soit ils étaient tellement brillants qu'ils participaient aux Jeux olympiques, soit... Dans certains cas, ils ont dû se battre là aussi pour se faire reconnaître. En fait, en 1948, au lendemain de la guerre, les séquelles de la guerre donnent cette idée à Guzman à Londres de créer des Jeux paralympiques qui ne sont pas reconnus immédiatement par le comité olympique. Il faudra attendre les années 60 pour qu'à posteriori les Jeux de 1960 de Rome paralympiques soient reconnus en tant que tels. C'est en fait que depuis 1960 que les Jeux paralympiques existent, dans le même rythme d'ailleurs que les Jeux olympiques tous les 4 ans. Et aujourd'hui, en 2024, pour les prochains Jeux qui vont arriver, il y a vraiment maintenant une fusion de paralympisme et olympisme. Vous avez vu, il va y avoir une affiche qui se coupe en deux et qui en fabrique une. Vous avez deux logos similaires. C'est un comité global. Même si on n'est pas encore arrivé avec cette idée dans la tête des gens que c'est les mêmes Jeux. Il y a encore une forme de différenciation, mais on voit l'évolution qu'il y a eu en 130 ans d'histoire où au début, la question se posait même pas. Les athlètes non valides n'avaient simplement pas le droit de descendre dans le stade.
Et les femmes alors ?
Ah, les femmes, c'est une longue histoire. Oui, c'est une très longue histoire. Au départ, l'idée olympique, qui se veut une idée généreuse, ouverte, universelle, n'est pas si généreuse que ça, si ouverte que ça et si universelle que ça. D'abord, c'est une histoire d'hommes blancs. C'est important à dire. D'hommes blancs au départ. Ça, c'est une vision occidentale. D'amateurs. Alors, l'amateurisme, tout le monde trouve ça génial aujourd'hui. Sauf que l'amateurisme, à la fin du 19e siècle, c'est plutôt des grands bourgeois, des aristocrates. D'ailleurs, vous le voyez dans leur tenue. C'est pour ça que c'est génial de faire des expos et des livres, parce que l'image montre, que ça n'était pas le prolétariat qui allait faire du sport. Un prolétaire qui était boxeur, il se faisait payer. S'il se faisait payer, il était professionnel. Et, certains considéraient, notamment Pierre de Coubertin, le baron, comme beaucoup d'autres, faut quand même le rappeler, que les femmes n'avaient pas leur place. N'avaient pas leur place pour venir dans une stade courir, sauter, bondir. On considérait d'une certaine manière que ce n'était pas le rôle de la femme de participer au sport. Comme pour la guerre, d'ailleurs. Si on regarde bien l'idée même première de Coubertin, le sport préparait à la guerre d'une certaine manière, et les femmes n'avaient donc rien à faire là. Elles pouvaient être dans les tribunes, mais pas dans les stades. Petit à petit, les femmes vont pouvoir accéder à certains sports. On le voit à Paris en 1900. Très peu au début. D'ailleurs, des sports qu'on considérait comme féminins, ou déjà pratiqués par les femmes. Ça pouvait être l'équitation, par exemple, ou ça pouvait être le tennis. Donc là aussi, des sports très aristocrates. Et puis les femmes vont à un moment prendre en main le relais. C'est le cas de le dire. Parce que si elles avaient dû attendre que les hommes leur ouvrent l'espace olympique, je pense qu'elles seraient toujours à la porte en train d'attendre. Et donc, Alice Mia et d'autres vont commencer non pas simplement à revendiquer que les femmes puissent faire du sport, elles vont s'organiser pour faire du sport. Elles vont créer les Olympiades féminines en 1922. Et ça va être la démonstration la plus concrète que, bah oui, les femmes peuvent faire du sport. Tout de suite, on imagine bien, les hommes ne vont pas dire immédiatement, mais c'est fantastique. Non, il va y avoir un débat sur quel sport peuvent faire les femmes. Et petit à petit, ce débat va être, on l'a vu aux Jeux Olympiques d'Amsterdam 1928, avec les femmes aux 800 mètres, où des hommes et des journalistes prendront prétexte de l'essoufflement de ces femmes après un 800 mètres pour dire, oui, dans quel cas corporel elles sont, elles ne peuvent pas faire des grands sports. Il faudra attendre encore 60 ans pour qu'elles puissent accéder au marathon. Et il faudra donc attendre 130 ans d'olympisme depuis la création des Jeux en 1894 à Paris à la Sorbonne pour qu'on puisse juste imaginer que dans ces Olympiades, les femmes et les hommes peuvent être tout simplement aussi nombreux ou aussi nombreuses. Ce qui montre que le combat, et si vous prenez l'exemple des femmes, on aurait pu le démultiplier, le combat s'inscrit dans une longue histoire de revendication et d'égalité, qui quelque part est un assez bon reflet de l'histoire politique que nous avons vécue depuis 130 ans. Les femmes ont dû se battre pour le droit de vote, les femmes ont dû se battre pour avoir l'accès à des emplois, les femmes ont dû se battre pour avoir les mêmes droits que les hommes, et enfin d'une certaine manière aussi de pouvoir choisir leur sport. Encore aujourd'hui, on l'a vu quand on a présenté l'exposition, dans des quartiers populaires par exemple, plein de jeunes filles viennent nous voir en disant « Mais croyez monsieur que nous on peut aussi faire tout sport parce que souvent nos grands frères nous disent que… » Je dis quoi ? Qu'un sport n'est pas pour vous, vous rigolez ou quoi ? Vous pouvez faire tous les sports. Regardez dans le monde entier les grandes championnes qui ont tracé leur destin. Et on le voit, on a pris l'exemple d'Alison Félix pour raconter aussi la difficulté de femmes qui décident par exemple d'avoir des enfants, de pouvoir avoir leur vie de mère, tout à fait normal, et d'avoir… peut-être, et rencontrer les obstacles que les hommes ne rencontrent jamais dans leur carrière. Les sponsors d'Alison Félix se sont retirés quand ils ont appris qu'elle était enceinte. Toutes ces histoires méritent d'être racontées parce que par ce combat très concret, ben oui, on est arrivé à l'égalité, mais parce que certaines ont su lever et prendre le relais et se battre pour l'avoir, cette égalité.
Ah, ce sont des questions dont on parle régulièrement, tout à fait. Je le sais, dans l'émission, dont on reparlera d'ailleurs avec Marie. Et il y a eu aussi, puisqu'on est sur les premières, les Jeux d'hiver.
Alors les Jeux d'hiver, au départ, on l'a tous oublié, mais si vous commencez à regarder des photos fantastiques des premiers Jeux 1900, 1904, 1908, vous voyez du patinage à glace. Alors vous dites, c'est quoi ? Ben oui, au départ, les sports dits d'hiver étaient dans les sports d'été. Bon, mais à un moment, c'est devenu un petit peu compliqué. Organiser, par exemple, dans une ville comme Londres, des sports d'hiver, bon courage. Donc cette idée est née parce que aussi il existait dans les pays nordiques.
En Arabie Saoudite.
Tout à fait, on y arrive. Mais là, on est déjà presque un siècle plus tard. Et en fait, on a commencé à imaginer parce qu'il existait les sports nordiques, des jeux organisés dans les pays nordiques qu'il fait. Et vous savez, le CIO a cette idée toujours de, dès qu'il voit quelque chose qui lui échappe, de le ramener à l'intérieur de son univers CIO. Et donc après la Première Guerre mondiale, va naître l'idée d'organiser en parallèle des jeux d'été, des jeux d'hiver. Et Paris, la France, va être le premier pays en 1924 à organiser des Jeux d'été et des Jeux d'hiver, une tradition qui va après totalement perdurer et durer, avec souvent cette idée d'organiser, mais pas toujours, les Jeux d'hiver dans le même pays que les Jeux d'été, avant de se rendre compte après qu'il y avait une demande en tant que telle des Jeux d'hiver, une mondialisation là aussi de la possibilité d'organiser, parce qu'il faut des infrastructures beaucoup plus spécifiques que les Jeux d'été, et la tradition va rentrer au point que les Jeux de Berlin, par exemple, sont aussi organisés en Allemagne en Jeux d'hiver que… Petit à petit, la tradition va rentrer et va s'inscrire pleinement dans cette vision que nous avons aujourd'hui d'une double temporalité, enfin même d'une triple temporalité maintenant, Jeux paralympiques, Jeux d'hiver et Jeux d'été.
Alors, puisque tu nous parles de Berlin, de 36, parce que je pense que par rapport à ce qu'on…
Je t'ai bien préparé le terrain sur Berlin,
voilà,
36.
Je pensais en parler un peu plus tard, mais maintenant on y est, alors allons-y. Ouais. Est-ce que tu peux parler de 36, de Jesse Owens ?
Bien sûr. Alors, les Jeux de Berlin, c'est amusant parce qu'ils ont marqué l'imaginaire, parce qu'ils touchent tout de suite aux politiques. Et dans la tête de tout le monde, quand on parle des Jeux de Berlin, on a l'image politique de ce qui s'est passé. Il faut savoir que c'est pas les nazis qui obtiennent les Jeux. C'est bien avant l'arrivée des nazis au pouvoir que les Jeux arrivent. Et qu'Oedipe Héclère ne veut pas des Jeux. Qu'est-ce que c'est que ce truc universel où tout le monde dans les stades va pouvoir être côte à côte? C'est antinomique avec l'histoire nazie. Et en fait, c'est les services de propagande Goebbels qui vont convaincre Héclère que 36 est une opportunité pour montrer la nouvelle Allemagne. Fabriquer une image bonne, en convaincant tout simplement que c'est le moment où il y aura le plus de journalistes qui viendront en Allemagne. Hitler se laisse convaincre et va, en moins de 24 mois, organiser des Jeux qui vont être les plus structurés, les plus modernes, les plus majestueux qui soient, pour montrer que l'Allemagne nazie est renée de ses cendres de la Première Guerre mondiale, est une nation clean, mais va aussi nettoyer complètement le pays de tout signe et de symbole antisémite pour donner le sentiment que tout ce qui est raconté sur l'Allemagne nazie n'existe pas, est faux. On va sortir tous les vagabonds et toutes les personnes de Berlin qui pourraient être symbolisées un pays pauvre. On va sortir, bien entendu, toutes les enseignes vont être supprimées de magasins interdits aux Juifs. On va se débrouiller également pour montrer le sentiment d'une nation qui va accueillir le monde, de générosité. Bien entendu, dans le même temps, faut pas aller trop loin pour les nazis, on va interdire aux sportifs juifs allemands de participer aux Jeux, mais on va pas interdire aux sportifs juifs étrangers de participer aux Jeux, ce qui fait que beaucoup vont se faire piéger dans la presse. Et puis, il va y avoir l'événement qui n'est pas prévu, c'est Owens. Owens, c'est cet immense sportif sur lequel il y a une énorme pression d'une NAACP aux États-Unis, des leaders noirs américains qui lui disent ne pas aller aux Jeux, boycotter les Jeux. Et lui, c'est pas un militant de la cause noire. À la base, il comprend pas, il dit non, moi je suis un sportif, la meilleure manière de défendre mon peuple, de défendre les Afro-Américains, c'est justement de montrer par le sport que je vais gagner. Et donc il y a un débat aux États-Unis, faut-il ou non boycotter ? Il va à Berlin, on connaît son parcours, 4 médailles, le champion absolu, qui va en plus, qui est le plus incroyable dans cette histoire, être filmé par Leni Riefenstahl comme étant l'emblème même des Jeux, le film Olympia qui est le film emblématique du nazisme, d'une certaine manière. Il va devenir un des modèles, et son histoire d'amitié en plus avec un sportif allemand va transcender l'histoire. La légende raconte que Hitler a refusé de lui serrer la main, mais en même temps Hitler a serré la main d'aucun sportif, à part les sportifs allemands, donc on peut... Ce qui est quand même beaucoup moins raconté, c'est quand Owens va rentrer aux États-Unis. Il y aura une énorme cérémonie à l'américaine que l'on connaît tous quand on traverse New York et compagnie, mais qui ne sera pas reçue à la Maison-Blanche. Comme tous les autres sportifs noirs, Roosevelt est en pleine campagne électorale. Et le Sud, pour les démocrates, est fondamental pour les élections, et il était inconcevable dans l'Amérique blanche des années 30 de recevoir les sportifs noirs. Donc Owen, c'est un carrefour incroyable. Sa victoire, il brise complètement l'idée nazie du surhomme allemand, même si les Allemands vont faire un score extraordinaire étant la première nation olympique, faut pas l'oublier. Il va symboliser à travers sa personne, sans être un militant, cette image qui va rester gravée maintenant dans l'humanité d'avoir en fin de compte un sportif noir qui démontre que les thèses nazies sont une aberration. Et en même temps, il est un symbole aussi après pour la cause américaine parce qu'il va être le grand sportif noir de l'entre-deux-guerres, à côté de quelques boxeurs, mais celui qui, d'une certaine manière, a symbolisé sa place dans la nation. Pourquoi ? Parce qu'encore, les Américains, à l'époque, n'imaginaient pas qu'un noir puisse porter les couleurs de l'Amérique. Et Owen, c'est ça. C'est la grande victoire de ça. Même s'il y avait eu d'autres, on a oublié les premiers sportifs noirs, d'ailleurs, qui ont gagné. Je pense à Hubbard, à Paris en 1924, au saut en longueur, qui gagne la première médaille d'or pour un noir américain, mais on n'est pas à ce moment-là encore dans cette mythologie parce que c'est l'Allemagne, parce que c'est Berlin, parce que c'est 36, parce que c'est Owens, parce que c'est 4 médailles. Il va marquer ce qu'on aime raconter dans cette expo, dans ce livre et dans cette exposition, que les sportives et les sportifs écrivent une page d'histoire, souvent à travers leurs gestes, leurs victoires, parce qu'ils correspondent à des moments d'histoire aussi, et c'est cette rencontre qu'il va y avoir en 36.
Alors, de nouveau, tu fais une transition, hein, ouais. Puisque les sportives écrivent l'histoire. J'aurais voulu demander à Richard, est-ce qu'il y a un moment marquant sur les Jeux, celui où tu étais, c'était en 84, c'est ça ?
En 84, oui.
Los Angeles, ou est-ce que sur un autre, moi, au choix, des moments qui t'ont marqué que...
En 84, je me souviens de la cérémonie d'ouverture avec un sportif noir qui prend la parole et qui ouvre les Jeux. C'était Edwin Moses.
Exactement.
Alors, parce que tu en as parlé brièvement, je ne sais pas si tous les auditeurs ça leur
parle. Edwin Moses, c'était un immense champion de 400 mètres haies et qui dominait sa discipline avec une classe folle. C'était un vrai gentleman, quelqu'un qui était respecté de tous et qui était un fantastique champion. Donc, on l'avait honoré. Enfin, je pense que les États-Unis l'avaient honoré en lui proposant de faire le discours d'ouverture. Et moi, je me souviens très, très bien, j'étais sur la pelouse avec les autres délégations françaises, on était comme des fous à accueillir la délégation américaine avec les Carl Lewis, avec tous ces immenses champions qui ont marqué ces Jeux à cette époque. Et on était suspendus aux lèvres de Moses. Et ce qui est terrible, c'est que lors de cette prise de parole, il a eu un trou immense, enfin, qui paraît immense maintenant avec le recul. Ça dure 15 secondes, 20 secondes, mais ça paraissait une éternité. Et ce qu'il ne savait pas, on le voyait perdu dans ses pensées en essayant de retrouver le fil de son discours. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en fait, ce discours était inscrit sur l'immense panneau qu'il y avait dans le stade. Et on était tous autour de lui à essayer d'attirer son regard vers le panneau pour qu'il puisse reprendre. On avait tous mal pour lui
parce que
c'est quelqu'un qu'on adorait. Enfin, c'est quelqu'un qui était vraiment très consensuel et qui était un gentleman fini. Et puis, en fin de compte, heureusement pour lui, sa mémoire reprend. Et puis, voilà, c'était mon premier souvenir des Jeux. Mais c'était un souvenir assez particulier.
Et ça, nous, on n'était pas là. Et on n'a pas vécu.
Non, on l'a vécu à la télévision.
Oui, dire, voilà. Mais je ne me rappelle pas de ces 15 secondes.
Voilà. Mais c'est des moments, il faut se rendre compte que les années 80, c'est le moment où la télévision, qui est déjà là depuis quelques années dans les Jeux, rend possible le fait que des milliards de gens regardent les Jeux Olympiques. Ça a été une révolution quand même. Les gens l'oublient, mais quand je raconte à des gamins, par exemple, je dis, au départ, les Jeux, on les suit dans la presse. Comment ça, monsieur? Bah non, pas au match. Très peu de gens ont vu les matchs de foot ou de rugby des Jeux de 1900. Puis après, on les suit à la radio. Alors là, les gamins, ils vous disent, comment ça, la radio? Il n'y a pas les, il n'y a pas les images. On regarde un match de boxe, on l'écoute. Un match de foot, on l'écoute. Puis après, est arrivé petit à petit dans les salles de cinéma, on a vu les champions. Pareil, les Jeux de 32, par exemple, sont vus avec un décalage de quelques jours.
C'était des reportages.
Mais des reportages, mais on les voit. Eh, c'est nouveau, on les voit en mouvement. On commence à filmer le sport. Et puis enfin va arriver la télévision. Mais on, c'est pas, le jour où elle arrive, c'est pas la révolution tout de suite. Avant que les gens soient équipés d'écrans télévisuels, il faut s'en rendre compte. Et les années 80, c'est le moment où on pouvait se lever la nuit, notamment là, les Jeux dont tu parles, aux États-Unis, on se levait la nuit pour aller voir les épreuves.
Et puis c'était l'avènement des Jeux modernes.
Exactement.
Avec le sport business, et tout ce que les Américains ont pu apporter. Et d'ailleurs, ce qui a propulsé les Jeux Olympiques au niveau où il est aujourd'hui, avec un événement repris et suivi par des milliards de personnes dans le monde.
C'est l'événement le plus suivi au monde. Quoi qu'on puisse imaginer, c'est le moment où tu as le plus d'individus qui peuvent maintenant être sur leur portable. Maintenant, ça va scroller pour regarder les Jeux, mais on s'en fout. C'est le moment où tu as le plus de gens qui regardent un événement. Et on le sait, il y a deux, trois moments dans les Jeux, notamment la finale du 100 mètres, qui est le moment... Je sais pas pourquoi d'ailleurs.
Et la finale du basket.
Et la finale du basket, bien entendu. Mais ça, c'est aussi grâce à quelques Américains qui sont rentrés
en 92.
Et oui, et c'est les professionnels qui arrivent. Oui, oui, non, mais il a regardé. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, faire rentrer les professionnels du basket a été une révolution dans l'histoire de l'olympisme.
Bah, oui.
C'est fini l'amateurisme. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, à un moment, les gens ont dit oui, mais les meilleurs sont pas dans les Jeux. Et là, le basket amène une révolution avec l'arrivée de la Dream Team, avec l'arrivée des plus grands basketteurs, alors que le foot, à l'époque, avait deux histoires séparées.
Mais il y a toujours, puisqu'on voit bien qu'Mbappé fera l'Euro et peut-être pas
les Jeux. Si je peux me permettre, il y a une dimension politique à cette évolution. Oui. D'abord, une dimension technologique, parce que vous parlez du phénomène olympique, et en réalité, souvent, à l'occasion des Olympiades, la télévision va muter. C'est le passage à la couleur, du noir et blanc à la couleur, ce sont les Jeux Olympiques. Et sur l'histoire de la Dream Team, c'est parce qu'ils avaient pris des raclés en 88 et en 84 que les Américains disent on n'ira plus avec les universitaires.
Ouais. Non, mais c'est là où on voit tous les enjeux qui, parce que c'est pas simplement gagner, bien sûr gagner est fondamental, c'est aussi des enjeux de nation. Être la première des nations, préparer son peuple. Quand vous voyez une histoire comme l'Allemagne de l'Est par exemple, un tout petit pays peut devenir parmi les trois plus grandes nations sportives. Volonté politique, volonté stratégique, exister en tant que nation, refuser d'être digéré par l'Allemagne de l'Ouest. Vous prenez tout ça et d'un seul coup, vous créez une nation de sportives et de sportifs. D'ailleurs, sportifs pourquoi? Parce que les pays de l'Est ont vite compris que le sport féminin, c'était la manière d'être devant les Américains à un moment. Et là, vous dites le politique, le stratégique, le business aussi.
C'est le business aussi.
Parce que d'un côté, vous aviez les pays de l'Ouest qui disent, nous, c'est des professionnels, mais les pays de l'Est, ils étaient payés et salariés par les États. Donc à un moment, tout le débat sur le professionnalisme va exister aussi avec la guerre des mondes et la guerre des blocs.
On pourrait en faire toute une émission, mais...
Mais c'est pour ça qu'on fait des
on en parle des parties, voilà, dont on reparlera en fin de... Si on s'est promis, on rappelle que celle pour les écoles est toujours
tout à fait
possible. On peut la recommander.
Elle est gratuite, vous pouvez la commander sur le site Histoire, Sport et Citoyenneté. Et elle est, c'est le plus important, accompagnée d'un programme pédagogique complet pour les enseignants.
Et on reparlera de l'autre expo, mais tu parlais politique et tu as fait un choix musical.
Il est pas dur en ce moment. Demander une musique en ce moment en lien au jeu. Je crois que c'est Ayana Nakamura. On est dedans. Elle m'a demandé une chanson. C'est intéressant à voir parce que j'ai deux mots. Je peux dire deux mots dessus. En dehors de la focalisation qui est faite, on sait que, et rappelez-vous Jean-Marie Le Pen qui critiquait une équipe de France de football à l'époque en trouvant qu'il y avait trop d'étrangers. Rappelons-nous aussi qu'en 89, quand Good fait chanter une grande cantatrice sur les Champs-Élysées pour le bicentenaire de la Révolution française, quelques-uns à l'extrême droite trouvent qu'elle est beaucoup trop noire comme cantatrice, donc c'est pas nouveau. Beaucoup ont encore du mal à imaginer qu'une nation peut être donc représentée par des gens qui ne seraient pas dans la chromie dominante. C'est une histoire mondiale, elle n'est pas que française. Mais elle est particulièrement prégnante en France, parce qu'on a eu des histoires comme ça, pour remonter le temps, la grande époque où il y a eu les premiers capitaines noirs pour l'équipe de France, ça a fait des débats, il y avait des critiques, et à chaque fois c'est des moments structurants. J'ai trouvé que ce débat qui avait autour de Ayana Kamara, est-ce qu'elle va pouvoir symboliser la France, chanter du Piaf et symboliser les Jeux Olympiques à ce moment-là? C'est très révélateur de ces moments d'angoisse, d'inquiétude de la nation, de sentiments qui perturbent d'une certaine manière certains qui ont du mal à penser la diversité. Et là, on voit les arguments qui sont pris, on voit comment l'extrême droite s'en est emparée, parce que les Jeux Olympiques, c'est aussi un moment, un symbole de comment un pays se montre, une équipe se met en exergue. Et ben donc, cette histoire nous fait dire que l'histoire politique accompagne, oui, toujours le sport et continuera de toute façon à accompagner le sport.
et donc on va l'écouter.
Bah, bien sûr.
Hein, Jaja d'Aya Nakamura.
Aya Nakamura, elle a pas pimé qui baza. J'entends des bails à trois sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Le monde est hyper. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air. Crache encore, y'a air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, j'suis pas ta cata, dja dja. Non, y'a pas moyen, dja dja. Ouais, en katana, baby, tu dettes ça.
Vous êtes bien sur Cause Commune dans votre émission Vivons Sport. Le thème de l'émission d'aujourd'hui est sport et histoire contemporaine. Nous sommes toujours en studio avec Marie Lopez Vivanco, réalisatrice notamment de Histoire de Palestine, Pascal Blanchard, historien, directeur du programme d'exposition pédagogique sur l'histoire des Jeux Olympiques, histoire, sport et citoyenneté, Pierre Friedenreich, membre du comité directeur et président de la commission sport du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France, et Richard Dacoury, légende du basket français et par du projet que nous allons maintenant présenter. Donc vous êtes deux, Pierre et Richard. c'est celui qui veut qui commence. Mais je vais peut-être m'adresser à Pierre pour demander pourquoi le CRIF a souhaité organiser ce voyage et si tu peux nous rappeler.
Alors d'abord, c'est pas dans la bonne chronologie, c'est pas le CRIF. C'est d'abord Richard.
Ah, en fait, c'est
Richard.
Je ne savais pas. Alors,
de qui
Richard,
je suis très proche. Nous sommes très proches. Et nous avons partagé une projection et nous avons eu le même choc pour des raisons assez communes, alors que nous ne sommes pas, c'est pas flagrant, mais nous ne sommes pas exactement des mêmes origines, mais pourtant nous avons été secoués et dévastés de la même manière. Et spontanément, Richard m'a dit, ce à quoi j'ai assisté me bouleverse tellement que j'aimerais pouvoir faire quelque chose. Et je lui dis, mais pourquoi nous monterions pas, à l'occasion des Jeux Olympiques qui se profilent, un voyage avec les champions? C'est parti de là, et la suite,
et
il va
là,
vous la raconter.
Richard, la suite, du coup.
Oui, après, c'est totalement ça. C'est la suite de la projection du film Simone, qui m'avait laissé totalement, d'abord en larmes et bouleversé. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a monté en moi de manière assez vivace. Et j'étais heureux de retrouver en Pierre, justement... quelqu'un qui a pu entendre un petit peu ce bouleversement et me proposer cette opportunité-là, qui était, avec l'aide du CRIF, de créer un voyage mémoriel, un voyage des champions. Donc solliciter mes amis champions, enfin solliciter mon agenda, mon carnet d'adresse pour essayer de les sensibiliser et organiser avec eux ce voyage à Auschwitz pour en respect à la mémoire de ceux qui ont été exterminés et surtout... C'était véritablement, on en reparlera, on va en parler, un voyage vraiment humaniste. J'avais besoin d'exprimer justement cette humanité et de la mettre un petit peu au devant de la scène pour dire stop, tout d'un coup, prendre la parole, dire stop face à cette montée des discriminations, de l'antisémitisme, de tous les racismes, et de cette xénophobie que l'on sent de plus en plus dans la société. Donc c'est insupportable. Et c'est quelque chose que voilà, j'avais vraiment envie d'exprimer, partager, et je pensais qu'il était assez intéressant d'utiliser un petit peu la notoriété des sportifs pour et l'oreille que les sportifs ont auprès du plus grand nombre, pour bien ouvrir un débat et parler de ce glissement vers lequel la société est en train d'aller. Et voilà un peu l'origine de tout cela. Et je dirais que médiatiquement, la démarche a été pratiquement au-delà de toutes nos espérances, parce qu'on a beaucoup parlé, vous avez sans doute entendu parler de ce voyage et de ce que ça impliquait. Et moi, à titre personnel, ça a été un autre bouleversement, quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Et ça renforçait justement l'envie qui est la mienne aujourd'hui de me battre pour ses convictions, pour un monde meilleur, pour moi, pour mes enfants, pour les enfants. Voilà. Et c'est un peu l'origine de tout ça.
Alors ça, on le dit souvent dans cette émission, hein, les sportifs sont devenus les plus grands influenceurs qu'on ait, donc sur des causes et souvent sur des causes. Donc bravo pour l'initiative. Alors, qui a été sollicité? Qui est venu? Est-ce que tout le monde a voulu venir?
Alors, donc je le disais dans la chronologie, c'est Richard qui m'appelle en sortant de cette projection en me disant « c'est pas possible, compte tenu de ce que j'entends, de ce que je lis, de la radicalité, de la violence, et d'ailleurs pas circonscrite au périmètre de l'antisémitisme, de toutes les violences. » Je lui dis « je pense que ce voyage à vocation... pédagogique, alors humanisme mais surtout pédagogique, peut faire sens et la résonance que accorderont les champions qui nous accompagneront sera profitable. On en a parlé à Jonathan Arfi, qui est le président du CRIF, qui a évidemment adhéré immédiatement à la démarche, ne serait-ce que parce qu'il est le petit-neveu de Nakash, qui a été surnommé le nageur d'Auschwitz.
Oui, il faut peut-être rappeler aussi aux auditeurs.
Qui est Nakash?
Oui.
Ah, je vous laisse le faire.
Ça,
il va le faire, on a un historien.
On a une page sur lui, on rend hommage
en l'exposition. Mais, je préfère que ça soit l'historien.
Nakash est un très grand nageur français, originaire d'Algérie, juif, vous venez de le dire, qui était déjà dans les années 30 un très grand nageur de la France. Il fait d'ailleurs les Jeux Olympiques de Berlin. Il ne sera pas médaillé à Berlin avec l'équipe de France, mais il y participe. Il continue à nager au début de l'époque vichyste en France. Il va être déporté avec sa famille, si la mémoire est bonne, 143.
C'est ça.
Et alors qu'il est un très grand champion, au nom des lois antisémites, et alors c'est même paradoxal de voir qu'en 41-42, il nageait encore sous Vichy et qu'en 43, il est déporté. Toute sa famille meurt en déportation. Il est, je crois, si la mémoire est bonne, le seul survivant qui est en France. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est après cette histoire... Après cette déportation, après cette violence qui est liée à l'État français vichysois et bien sûr à la Gestapo et à l'Allemagne, il va encore nager pour l'équipe de France. Et il va faire les Jeux de Londres de 1948. On a trouvé des photos, vous verrez dans le catalogue, extraordinaire de lui, parce que je trouve que c'est un personnage extraordinaire et il fallait que les photos soient à la hauteur. Et il est un des personnages emblématiques de l'exposition qu'on fait à la Porte Dorée, car je trouve que c'est un splendide hommage à lui faire. Et je rappelle qu'il y a beaucoup de lieux en France maintenant qui portent son nom.
De piscines, bien sûr.
De piscines, notamment, de rues. Et on l'avait mis dans Portrait de France quand on avait fait ce travail sur changer les noms de rues, parce que je trouve que c'est une figure emblématique. On avait fait un petit film sur lui à l'époque, je me rappelle, c'est Abdel Malik qui faisait la voix pour raconter l'histoire de Nakash, qui est l'une, en plus, en tant que sportif, là, une des plus belles histoires de France.
Donc, en fait, voilà. Donc, Jonathan accepte immédiatement la démarche. On monte ce projet durant l'été 2023. Nous arrêtons une date qui était prévue le 26 novembre, pour laquelle un grand nombre, même un très grand nombre d'athlètes se déterminent et sont emballés à l'idée de se déplacer avec nous, de faire ce voyage avec nous. Évidemment, Richard a une connexion très privilégiée avec ses champions. Et puis, le 7 octobre arrive. Malheureusement, nous allons enregistrer dans les semaines qui suivent pas mal de défections. Mais nous, en réalité, puisqu'on l'a reporté au 14 janvier, sur proposition de Richard, et nous y avons évidemment souscrit très rapidement, mais nous, ce qui nous a intéressé finalement, ce sont ceux qui sont venus. Ceux qui ne sont pas venus, ils ne sont pas venus, ils ont plein de raisons de ne pas venir, mais finalement, ce qui a été important pour nous, c'était de pouvoir compter sur des athlètes qui ont complètement intégré et validé la démarche qui était la nôtre, et qui l'ont restitué formidablement. Moi, quand j'entends, j'entends Jean-Marc Mormec me dire, en allant de Birkenau à Auschwitz, le 6 fois champion du monde, me dire, j'ai été 3 fois KO dans ma vie, 2 fois sur un ring, 1/3 fois ici, ben, je me dis que Richard a été bien senti et bien inspiré de proposer ce voyage.
Oui. Non, c'était un voyage qui est allé au-delà de tout ce qu'on avait pu imaginer. Moi, j'étais vraiment très heureux d'être entouré, parce que c'est un genre de voyage qu'on ne peut pas faire seul. En tout cas, moi, j'aurais pas eu la force de le faire seul, hein. Honnêtement, c'est un choc inimaginable. Donc, j'étais très fier aussi d'être entouré. On parlait de Jean-Marc Mormec, mais il y a aussi Camille Lacour, Fabrice Santoro, il y a Vincent Moscato, Pascal Gentil et bien d'autres, connus et moins connus, mais peu importe. En tout cas, ils étaient tous habités des mêmes convictions, des mêmes valeurs que je partageais et que nous partageons. Et on s'est tous retrouvés choqués, KO, un peu comme Jean-Marc, mais sans doute aussi plus fort après, plus déterminé à lutter et à utiliser notre position, notre notoriété pour porter ces valeurs qui, encore plus aujourd'hui, sont importantes, et plus qu'importantes, sont incontournables.
Donc chacun autour de lui maintenant, quoi,
après, vous savez, vous êtes là, on en parle aujourd'hui, on a eu beaucoup de médias.
Je sais que chacun est capable de le faire.
Chacun est capable de le faire. Et au-delà de ça, je veux dire, oui, c'est quelqu'un doit. Après, peu importe la forme, peu importe la capacité que les uns et les autres ont de s'exprimer selon certains codes ou pas. Mais après, ils ont tous parlé avec leur trip, avec leur cœur, et c'est pour ça que ça portait autant.
Et c'est intéressant, non, sur la résonance que ces champions ont donné à ce voyage. Je prends cet exemple de Sonny Anderson. Non, je ne vous dis peut-être pas forcément grand-chose, mais c'est une star du football. C'est un très grand attaquant de l'Olympique Lyonnais et de la Seleção brésilienne. Et il y a eu une grande couverture de son voyage dans la presse portugaise. Et c'était très intéressant. Il est brésilien, exactement. Et c'était très intéressant de voir comment la presse portugaise a restitué la démarche de ce champion de football, pour lequel, évidemment, a priori sur le papier, il n'y a pas de raison qu'il soit à ce point dévasté. Et il dit dans cette interview que lorsqu'il sera de retour au Brésil, comme le Brésil est évidemment très loin d'Auschwitz, il se fera fort d'aller dans les écoles pour le raconter. Eh bien ça, c'est déjà un petit pari gagné.
Bien sûr. Tu m'as dit que l'ambiance n'était pas la même à l'aller et au retour.
Oui, je racontais effectivement que quand on s'est retrouvé à 6h du matin à Orly, on était dans une ambiance colonie de vacances parce qu'ils étaient évidemment très contents de se retrouver. Certains venaient de Paris, mais d'autres venaient de plus loin. Et puis, c'était une joyeuse bande de rigolade dans l'avion de l'aller et au retour. Il n'y avait pas un bruit. C'était assez étonnant. Il n'y avait pas un mot qui voilà, c'était mutique.
Ouais. Après, au-delà de ça, après le voyage, la journée a été très chargée, en plus pour ressentir un peu plus ce que les déportés ont pu ressentir. On avait choisi d'y aller en hiver, justement pour se rendre un peu plus compte. Nous avions rescapé Léon Lefkovitch, qui en plus nous a retracé, nous a expliqué un peu ce qu'il avait vécu. On avait des guides extraordinaires qui nous ont raconté l'horreur, tenté de nous raconter l'horreur en nous montrant un peu les vestiges, les ruines des chambres à gaz, des fours crématoires, des baraquements qui étaient présents. On se rendait compte de cette immensité de cette usine, cette industrie de la mort, c'est inimaginable. Le cynisme et la perversité des nazis de rallonger les rails jusqu'à l'intérieur du camp d'Auschwitz pour gagner du temps et permettre aux prisonniers, aux juifs emprisonnés, mais directement de passer du train qui venait d'arriver une demi-heure après pour être gazé et mis dans les fours crématoires. C'est insupportable. Et tout cela, eh bien, c'est la raison pour laquelle après on était écrabouillé par ce que l'on venait de voir et pourquoi plusieurs jours après, et encore maintenant, on est encore ému aux larmes de ce qu'on a pu vivre.
Il y a une phrase qui a été citée par le guide quand on était dans le bus, je sais pas, on n'était pas dans le même bus, mais qui nous a dit « Vous allez passer deux fois plus de temps que la durée moyenne des déportés lorsqu'ils arrivaient à Auschwitz. » En fait, nous sommes restés 6 heures sur place, mais la durée moyenne de vie, c'était 3 heures. Et Léon Lefkovitch, qui a 94 ans aujourd'hui, qui est absolument incroyable, qui nous raconte qu'en réalité, le docteur Mengele, qui est l'affreux docteur de ce camp, avait poussé le vice à installer un portique d'1m80 et à proposer, en tout cas, à imposer à tous les déportés de toucher avec leur tête tous les matins, et ceux qui ne touchaient pas allaient directement à la chambre à gaz. Léon Lefkovitch mesure 1m53. Lorsque son tour est arrivé, évidemment, il n'a pas touché. Mengele l'a envoyé à la chambre à gaz. Et là, miracle de sa vie, une seule fois dans l'histoire d'Auschwitz, le 7 octobre, troublante date, le 7 octobre 44, les Sonderkommando qui avaient la sale tâche de conduire à la chambre à gaz les Juifs se sont révoltés. Et donc, les chambres à gaz n'ont pas tourné ce jour-là. Il a été sauvé de cette manière-là. Puis ensuite, il y a eu les marches de la mort. Et il a survécu aux marches de la mort. Lorsqu'il a quitté Auschwitz, il nous racontait ça. Hein, il pesait 30 kilos à la libération. Et pour ne plus jamais avoir à subir et à être le faible, il a décidé de se mettre au sport. Il n'avait jamais fait de sport avant. Il est devenu champion de France d'haltérophilie pour que plus personne ne lui marche sur les pieds. Et je terminerai sur Léon Lefkovitch parce que faut remercier Richard qui réalise le rêve de sa vie. Léon Lefkovitch va porter la flamme olympique.
Oui. Tu devais lui faire du bien de vous avoir tous
oui.
autour de lui.
Oui, je pense. Oui, ça lui a fait un grand bien. Ça nous a aussi aidé d'être accompagné de Léon, qui en plus une personne adorable, une chose extraordinaire, c'est peut-être un moyen aussi pour lui d'évacuer, qui a gardé un humour qui peut surprendre et une dérision, une autodérision qui est ouais, très 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 troublante. Mais en tout cas, ça nous permet, nous, de au-delà du respect qu'on lui porte, eh bien d'être encore plus proche de lui. Et ça, je le remercie. Ça a été vraiment une expérience et des rencontres qui vont compter dans ma vie.
Il y avait aussi Amir Haddad, d'ailleurs, puisqu'on parlait d'Alfred Nakache, je me suis dit, on a oublié de le citer.
Exactement. Il y avait quelques personnalités. Amir, qui joue le rôle, d'ailleurs, sur scène, qui est un seul en scène, joue le rôle de Nakache.
Il faut aller voir.
Voilà, a tenu à venir.
D'ailleurs, il y avait Brahim Masloum, qui avait joué le rôle
de Yann Pérez. Bien sûr. Il y avait
boxeur.
Exactement. Je tiens aussi à préciser la présence de Michael Jeremias, qui était là, qui est venu avec ses frères.
Champion paralympique.
Ses trois frères étaient là. Champion paralympique de tennis, et je crois que c'est l'un des étendards de Paris 2024, Paralympique 2024.
Oui, oui.
Voilà, il y avait une petite bande bien sympathique et qui nous a bouleversés. Voilà, c'était formidable.
C'est une très belle initiative. C'est bien d'avoir pu rassembler autant de personnes influentes, comme je le dis, parce que.
Oui, on parlait aussi de Michael Jeremias, qui est venu donc avec ses frères, avec toute sa famille, sa femme anglaise. Il avait vraiment, bon, Pierre a eu raison de préciser que c'était aussi un voyage pédagogique, c'était important, parce qu'aujourd'hui, ce dont on crève, la société crève aujourd'hui, c'est le manque d'éducation, je pense, sur des sujets importants. Et cette démarche, lui, était très pédagogique. Il avait besoin aussi de montrer à sa famille ce que les Juifs avaient pu endurer lors de cette époque terrible. Et je dirais que moi, j'espère encore pouvoir revenir à Auschwitz avec ma famille, peut-être mes petits-enfants un jour, et aussi leur transmettre un petit peu le flambeau pour qu'ils se rendent compte qu'il y a des combats importants, et celui-là en est un sans aucun doute.
C'est les dernières années où on peut visiter le camp avec des rescapés, bien sûr.
Oui, et au-delà de ça, je tiens encore, et Pierre l'a dit aussi, c'est qu'on parle bien sûr de la Shoah, de l'Holocauste, on parle de la lutte contre l'antisémitisme, mais ça va au-delà de cela, c'est vraiment la lutte contre tous les racismes aujourd'hui, contre les discriminations, comme contre la haine de l'autre, la haine de la différence. Et c'est insupportable.
D'ailleurs, il faut rappeler qu'il n'y avait pas que des Juifs qui ont été persécutés. Le nombre est important, mais des homosexuels, des tziganes, des résistants.
Des handicapés, bien sûr.
Et des personnes malades.
Bien sûr, c'est... Voilà.
Et de rappeler qu'aller voir des lieux de mémoire, c'est fondamental. Ouais. C'est l'historien là qui va prendre 10 secondes là-bas, et je trouve que emmener un jeune public ou un public âgé dans un endroit qui a été un lieu de mémoire, c'est toujours plus fort, même encore, que le travail des historiens. Parce qu'on voit où ça s'est passé, on voit comment ça s'est passé. C'est la preuve par la démonstration du visible, presque du toucher. Je trouve que c'est très important pour que les gens arrivent à se rendre compte du poids de l'histoire. C'est pour ça, souvent, quand les gens pensent que c'est pas important de garder les traces du passé, quelles qu'elles soient, hein. Faut jamais détruire, faut jamais enlever. Faut au contraire même faire un énorme travail de conservation, parce que ce que nos yeux voient, ça nous change. Ça nous change parce que là, d'un seul coup, un livre ou un film, on peut pas faire aussi fort qu'un lieu de mémoire. Et avec, bien sûr, aussi les grands témoins de l'histoire qui sont là pour nous accompagner. C'est pour ça que c'est très important que ce voyage, j'en ai beaucoup parlé avec Olivier Klein, qui était avec vous, qui préside aujourd'hui la DILCRA. Et on a beaucoup discuté avec Olivier, parce qu'il m'avait appelé quelques jours avant, et j'ai fait la bêtise de ma vie, j'aurais dû venir avec vous, et il me l'a proposé, et je ne suis pas venu avec vous. C'est un de mes grands regrets. Et Olivier est rentré avec beaucoup d'émotion dessus, et je trouve que c'est très important ce lien avec ces grands sportifs qui peuvent transmettre cette parole aujourd'hui et de pouvoir le faire.
Eh bien, aujourd'hui, ils sont témoins des témoins.
Voilà.
C'est ça, et c'est d'autant plus important à cette époque. Alors, après cette page difficile, on va faire la pause musicale avec le choix de Pierre, qui a voulu justement une pause particulière par rapport à ça, pour réconforter un peu.
C'est une petite pause douce.
Voilà. Alors, je te laisse rappeler.
C'est Eagles.
Hotel California.
Hotel California.
Dont on passera un extrait, je pense.
Mais c'est trop long, ça fait 6 minutes.
Oui. Bien sûr, Cause Commune dans votre émission Vivons Sport. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est sport et histoire contemporaine. Nous sommes toujours en studio avec Pascal Blanchard, historien, fondateur du groupe HAC et directeur du programme d'exposition pédagogique sur les Jeux Olympiques, sur histoire des Jeux Olympiques, histoire, sport et citoyenneté. Richard Dacoury, l'un de nos grands champions français. Pierre Friedenreich, membre du comité directeur et président de la commission sport du CRIF. Et Marie Lopez Vivanco, réalisatrice notamment de Histoire de Palestine, dont nous allons enfin, je dis enfin parce que tu restais très sage à écouter. Donc maintenant, tu vas parler, mais on va peut-être passer un extrait de ton film, si tu veux bien, avant que je te donne la parole.
Un professeur de sport aide à organiser des séjours en Palestine, en rencontre avec des joueuses palestiniennes. Ils allaient se connaître faisant du sport, franchement, ça serait parfait. Je pense qu'il n'y aurait même plus de guerre.
la suite n'est pas en français, donc on va s'arrêter là. Mais est-ce que tu peux nous rappeler quand a été tourné ce film et de quoi il parle et qui tu as interviewé?
Alors, j'ai eu l'opportunité d'accompagner un groupe de jeunes filles de Clichy-sous-Bois qui allaient rencontrer pendant une semaine avec leur sport de PS des jeunes filles en Cisjordanie autour du sport, dans les écoles. Et donc, elles découvraient aussi le pays. Et donc, ça a été très touchant parce que c'est un regard ingénu un peu...
C'est de 2010.
Alors, c'était en 2019. En 2019, pour les trois premières histoires, et la quatrième histoire, ça a été en 2022 à Gaza. Donc, je n'ai pas pu rentrer dans Gaza, donc j'avais identifié une jeune fille, et donc j'ai pris quelqu'un sur place qui a fait les images, un journaliste. Et donc, l'idée, c'était, au début, avant de partir, je voulais montrer un peu différentes sportives. Donc là, c'était des jeunes filles qui rencontraient d'autres petites filles autour du sport. Donc, on voit que des filles. C'est une autre image de la Palestine. C'est un regard ingénu. Et je me suis dit, avant de partir, tiens, ça serait intéressant d'aller rencontrer des sportives nationales, en fait, qui sont dans des équipes nationales. Donc, j'avais identifié Nour Daoud, qui est la première femme pilote automobile au Moyen-Orient et première coach femme au Moyen-Orient. Donc, je suis allée voir sa mère à Ramallah, qui me montrait qui vient d'une famille aisée palestinienne et qui me montre des photos, un peu le parcours de sa fille qui a dû partir parce qu'en Palestine, il n'y a pas de, en Cisjordanie, il n'y a pas d'infrastructure pour pratiquer son sport. Donc elle est à Dubaï, donc voilà, c'est sa mère qui raconte plein d'émotions, un peu le parcours de sa fille, et que c'est important pour l'émancipation des femmes. La troisième histoire, c'est une jeune fille qui fait partie des 4% de chrétiens en Palestine et qui faisait partie de l'équipe nationale de football et qui coach, qui explique un peu les difficultés qu'ont son équipe pour pouvoir rencontrer d'autres filles à l'international. Donc, elles ont peu de possibilités d'évoluer, finalement, dans leur sport. Et la quatrième histoire, c'était William, qui a perdu sa jambe dans un bombardement et qui reprend goût à la vie grâce au sport. Et qui fait partie de l'équipe de basket fauteuil de Palestine et qui veut devenir, qui a toujours le sourire et qui veut devenir un jour prothésiste pour aider les autres personnes comme elle. Donc voilà ces quatre histoires parce qu'il n'y avait pas de lien entre elles. Je voulais aussi, j'avais contacté une association sportive. C'est des femmes qui courent pour la paix. Juives et palestiniennes, mais je n'ai pas pu les filmer parce qu'il n'y avait pas d'événement à ce moment-là. Donc, j'ai ces quatre histoires. Au début, on voulait l'appeler les nouvelles de Palestine. Un petit clin d'œil à Maupassant, voilà, avec des histoires qui n'avaient pas spécialement de lien entre elles. Et au vu de l'actualité, je suis partie sur Histoire de Palestine parce qu'il a été monté début janvier.
Et alors, puisqu'il y a une grosse actualité, évidemment, est-ce que tu as des nouvelles des personnes que tu as rencontrées en tournage?
Alors oui, j'ai des nouvelles de personnes à Ramallah. Donc, ça va. J'ai pas de nouvelles de la jeune fille de Gaza, mais j'ai des nouvelles du caméraman qui a été blessé dans les bombardements et qui a été là, qui vient d'être rapatrié en France. Il avait envoyé sa famille avant en France. Mais voilà, j'ai pas trop de nouvelles. C'est assez compliqué de les avoir au téléphone.
Comment ces jeunes filles de Clichy-sous-Bois ont vécu ce voyage? Et est-ce que tu as des retours de ce qu'elles en ont fait en rentrant en France?
C'est vrai qu'au départ, elles ont eu du mal à convaincre leurs parents de les laisser partir. Parce qu'effectivement, on voit beaucoup de choses hein, dans les médias sur la Palestine, donc forcément, on peut avoir peur. Moi, c'est vrai que quand on est allé sur place en Cisjordanie, elle nous a dit... Bon, avant, on nous a dit, mais vous inquiétez pas, tout va bien, on est en Cisjordanie.
Je rappelle que c'était 2019.
Hein, ah, c'était 2019.
On a les images qui sont...
Voilà. Et donc, oui, effectivement, on est allé, on est arrivé à Tel Aviv, on est passé par Jérusalem, voilà, ce passage obligatoire. Et ensuite, voilà, on va plus loin que le mur, et là, on découvre Jenin, on a découvert... Ramallah, un peu toutes les Naplouses, etc., jusqu'à Tul Karem. Donc c'était une découverte, Enfin bon, c'était improbable, quoi, parce que c'est des images qui défilent sous vos yeux que vous voyez pas à la télé finalement, parce que vous voyez toujours des images d'enfants qui pleurent ou c'est voilà. Donc là, vous voyez un peuple qui vit, voilà, qui vit malgré la situation. Politique, mais qui a des rêves comme tout le monde, des gens comme nous finalement, des petites filles rêvent de devenir athlètes plus tard. Après, bon, c'est dans un pays aussi où bon, bah les filles, elles ont pas trop de place, donc il faut aussi se faire sa place et se dire que le sport c'est pas que pour les garçons. Hein, on se plaint.
Mais oui, on parlait ici, se plaignait en France. Là, c'est un peu plus compliqué. Oui.
Et bah ça a été vraiment touchant, hein, rien que d'en parler. Là, j'ai encore.
Et entre elles. Entre les Françaises et les Palestiniennes, il y avait la barrière de la langue, j'imagine. Oui. Comment est-ce que le langage du sport a suffi ou comment ça s'est passé?
Oui, ça rigole, ça fait des mimiques. Elles essaient de voilà barigouiner un peu en anglais, certaines qui parlent anglais. Donc c'était touchant de voir que voilà finalement le sport c'est un langage à part entière finalement. Et c'était beau. Et il y a des moments forts où elles sont ensemble, on n'ose pas trop s'approcher, mais en même temps, après le sport, voilà, on partage des moments d'émotion ou des repas.
Alors, elle le dit, hein, s'il y avait plus de sport, il n'y aurait peut-être pas la guerre. On aurait aimé qu'elle prenne un peu le pouvoir. pour la diffusion, comment ça se passe? Donc, je pensais qu'il avait été terminé un peu plus tôt, mais...
C'est très compliqué.
C'est terminé.
Ah, la diffusion, enfin, c'est très compliqué. C'est comme si je vous disais, j'ai le choléra qui en veut, quoi. C'est un peu compliqué. En revanche, on a pas mal de projections débats qui vont être organisées dans les villes, et notamment pendant les Jeux olympiques, sur des cinémas en plein air, etc., dans les Crous. Les écoles, il y aura quelques diffusions, mais là, voilà, c'est un peu avec ce qui se passe forcément, c'est un peu compliqué.
Mais qu'est-ce qui est compliqué? On vous oppose de présenter une vision un peu trop romancée de la situation au Proche-Orient, en Israël et en Palestine?
Bah après, je pense que d'humaniser, c'est compliqué.
Est-ce que s'exprimer quand quand ils vous le refusent, est-ce qu'ils vous disent
oui, est-ce qu'ils le
non, ils vont dire un motif.
En fait, bah même sur les festivals, hein, ils me disent on n'a pas pris. Bon, fallait faire des choix. Alors peut-être qu'il est mal réalisé. Peut-être que voilà. Mais c'est vrai que en ce moment, je pense que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Quoi. Moi, de ce que j'entends, c'est que il y a les élections qui arrivent. On veut pas.
Les élections de quoi?
Ouais. Les villes ne veulent pas programmer en ce moment des sujets qui vont traiter de Gaza parce qu'ils vont considérer que ça peut déclencher des réactions négatives ou positives, que les gens vont se poser la question si c'est un acte militant de la mairie ou pas. Je sens très bien ce qu'ils disent, elle n'est pas la seule. Moi, j'ai d'autres collègues qui ont des films actuellement sur des sujets, on va dire, politiques ou pas politiques, mais qui peuvent être liés au Moyen-Orient. Je peux vous dire, en ce moment, c'est déprogrammé, c'est pas programmé. Et dans l'échelle en diffusion, c'est on va attendre de savoir ce qui va se passer dans quelques mois et là on verra si on achète ou pas un film.
Donc en fait, on met à l'antenne que des documentaires sur les massacres et sur.
Non, on met à l'antenne. On met pas grand chose à l'antenne d'ailleurs, à part l'actualité. Sur les documentaires. Là, il est dans une case particulière. Il y a fiction et documentaire, c'est toujours un peu particulier en termes de programmation. Vous pouvez pas maîtriser le reportage, vous pouvez pas maîtriser l'actualité qui est traitée dans les. Parce que ça, c'est dans les journaux. Après, il peut y avoir un point de vue qui est montré. Mais alors, pour tout ce qui est périphérique, on va dire la fiction et le docu, pour faire à peu près simple. C'est évacué en ce moment. C'est évacué parce qu'on considère que ça risque d'être perçu ou mal compris. Et un élu, par exemple, s'ils voient que dans une salle municipale, par exemple, prévue pour un festival, un film qui va traiter de Gaza ou d'Israël, hein, dans les deux sens, alors je vais vous dire, ils l'enlèvent. Il prend pas le risque. Mmh. Il prend pas le risque parce qu'il se dit qu'il peut y avoir une problématique. Et on le voit bien. Moi, j'ai quelques collègues qui sont dans des programmes de festivals, ont des problèmes quand les sujets qu'ils vont traiter sont ceux-là.
Au même titre que la Russie, hein. J'ai un ami qui avait.
J'aurais pu dire l'Ukraine et la Russie
aussi. Là, c'est pareil aussi. Il s'est fait déprogrammer son film à la télé, qui était prêt à acheter.
Actuellement.
Mais c'est intéressant de voir justement la connexion qui peut être faite, c'est que les gens regardent pas quel est le sujet du film. Il suffit qu'il y ait le mot Gaza dedans, ou Israël, ou Ukraine et Russie, c'est ce qu'on vient de dire. Et en ce moment, ce sont des sujets que. Parce que quand vous avez affaire à un élu ou un programmateur de festival, il ne veut pas être accusé à un moment d'avoir facilité ou non ou de déclencher une polémique sur son territoire. Je vous rassure, dans les universités, vous savez qu'il y a quelques petits problèmes, pas qu'aux États-Unis, en France aussi.
Oui, pourquoi vous le présentez pas à Sciences Po?
Ah, balance.
Ça dépend lequel. À Sciences Po Grenoble, il y a aucun problème. Son film, il est projeté dans les 24 heures. Oui, mais oui, typiquement, on est en train de discuter de quelque chose qui fait que sur des conférences, par exemple, en ce moment, bah, dans les universités, vous avez vu ce qui vient de se passer à Sciences Po, bah, voilà ce qui se passe dans nos universités aussi.
Ce qu'il y a, c'est qu'on ne va pas dans la complexité des choses. On peut parler de certaines choses, faire des débats derrière, discuter. Ce sera, ça aiderait forcément. On est tous d'accord. C'est pour ça que nous, on en parle à l'antenne. Hein, et on continuera à le faire. Ça ne nous empêche pas de penser aux victimes, aux otages, aux familles d'otages et aux très, très nombreuses victimes palestiniennes actuellement. Mais de parler de ce qui existait, de ce qui, j'espère, existera encore et peut-être
et
dans
de
meilleures conditions. Et dans de meilleures conditions, j'espère. Il faut aussi en parler et que le sport a aussi sa responsabilité pour rapprocher et surtout ne pas diviser si on peut. Et il faut se rappeler toujours puisque c'est un instrument.
Oui, d'ailleurs, la sélection israélienne qui participera aux Jeux Olympiques à Paris de football, qui est donc celle qui a fini sur le podium des derniers Euros de football, sera composée à 50% d'Arabes israéliens, issus notamment de Cisjordanie. Donc ça peut marcher.
Ah, mais
ça peut marcher.
Nous, on en est convaincus, c'est pour ça qu'on en parle, et c'est pour ça que les voix doivent porter, celles des champions notamment. Tu voulais d'ailleurs finir sur un message d'espoir par rapport
c'est
au
ça,
sport.
C'était celui-là.
Celui de Nelson Mandela.
Non, mais surtout au-delà de Nelson Mandela, non. Moi, je pense que vraiment la vraie fenêtre par laquelle on doit essayer de s'évader, c'est précisément le sport et cette histoire de capacité à surpasser tous les antagonismes, toutes les violences. Et on le voit, Richard, je le disais quand on a démarré cette initiative, c'était courageux de la part de champions parce qu'ils ont reçu certains des tombereaux d'insultes, mais malgré tout, on est allé jusqu'au bout. Et je suis convaincu que le sport est probablement la meilleure leçon de tolérance qui soit.
Nous aussi, et c'est pour ça qu'on continuera et à en parler avec la complexité de tout et des nuances. Je voulais vous remercier tous pour d'être venus témoigner de tout cela. Un grand merci à Olivier Gréco pour la réalisation. Je voulais revenir sur vos actus, je l'avais promis. Donc
26 avril, l'exposition ouvre au Palais de la Porte Dorée. Olympisme, une histoire du monde, et vous aurez à la fois de l'histoire, des objets mythiques, des affiches, mais surtout d'excellents conférenciers pour traverser 130 ans d'histoire à rendre compte que le sport est à la fois complexe, passionnant, global, et nous donne la meilleure leçon d'histoire pour se rappeler l'histoire du monde.
Eh ben, on y sera.
Nous, on est convaincus, on viendra. Marie, toi, on suivra les dates de diffusion du film, et tu as un livre, rappelle-nous que ton livre
Championne.
Sort le 7 mai.
Championne des éditions Ramsay sur les anecdotes des femmes aux Jeux Olympiques et Paralympiques, avec une trentaine d'interviews.
Et le 7 mai dans toutes les bonnes librairies.
Voilà. et je serai aux Jeux Olympiques et Paralympiques, alors pas en athlète, non plus. Je cours pas assez vite.
Là, je croyais qu'on avait un scoop.
Mais en tant que vidéaste et photographe.
Eh ben, on va suivre aussi. Vivons Sport, il sera aussi. Pas d'actu de votre côté. Il y avait déjà une grande richesse et on suivra quand même les témoignages par la suite. Donc, vous pouvez voir aussi d'autres expositions autour du sport dans toute la France. Plusieurs sont à voir depuis ce mois-ci à Paris ou en Île-de-France. Match Design et Sport au Musée du Luxembourg depuis le 13 mars. Jouets olympiques en avant les champions au Musée du Jouet à Poissy.
Paris depuis le 13 mars, une expo vente de photographies sur le breaking à l'hôtel Trib, Paris La Défense, et figure libre Stéphane Hachepoul, l'exposition Mode et Sport à la galerie du 19M. Que ce soit dans les musées, sur les terrains, en tribune, devant les écrans ou en audio, bon sport à toutes et à tous, à très vite.
Et l'Ormanodou qui accélère, l'Ormanodou qui termine, l'Ormanodou est championne du monde.
Pas ça, Zinedine. Oh non, oh non, pas ça.
Regardez, l'équipe de France qui fait la saga.
Saga Africa, ambiance de la
France. Has the power to change the world. It has the power to unite people.